Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous savoir à mes côtés sur le pont du cargo de Radio Caroline. Les années 5 ont bien des vertus. 1965, au hasard bien sûr, avec la mutation électrique de Bob Dylan sur la scène de Newport, dont on parle beaucoup, moment raconté d'ailleurs dans l'un des épisodes de la série Rock Icons, que j'ai eu le plaisir d'écrire et que vous pouvez retrouver sur Ovio et toutes les plateformes. Quant à 1975, il y a 50 ans donc, c'est une année clé pour un tout autre mouvement, non seulement musical, mais aussi dans sa genèse culturelle au sens large, voire politique. Et ce mouvement, c'est le disco, raison pour laquelle la Philharmonie de Paris, après avoir dédié des expos à Georges Brassens et Bob Dylan, se consacre en 2025 au disco. Oui, je sais, pardonnez-moi de lancer ce mot disco sur les ondes de Classique 21, mais s'il vous irrite, surtout ne partez pas. Car, vous l'imaginez bien, loin de moi le désir de susciter une mutation à cette belle station, mais le désir plutôt de revenir sur ce qui, avant d'être un puissant courant musical qui a produit le meilleur comme le pire, fut d'abord une révolution sociétale, laquelle, aux États-Unis, a participé d'une certaine manière à la libération de la communauté noire, à celle des gays, et a même offert à pas mal de femmes, chanteuses, une autre image non dénuée de puissance. En Europe, car notre continent fut une des sources du disco, c'est notamment à une révolution d'une autre nature, électronique, à laquelle, à ses débuts, ce genre a contribué.
Ce podcast ne contient que des extraits musicaux pour des questions de droit.
Larguons les amarres. Aux États-Unis, le phénomène dont la musique disco sera plus tard le produit et qui va se cristalliser dans des lieux qu'on nommera discothèques, le clubbing donc, trouve ses racines à la fois dans le mouvement de libération gay, dans les luttes contre les ségrégations raciales et même dans la crise économique qui sévit outre-Atlantique aussi au début des 70s. Pour ce qui est de la révolution gay, petit rappel. Le 28 juin 1969, dans une rue de Greenwich Village, à New York, des policiers font, comme régulièrement, une descente dans un bar, le Stonewall Inn, fréquenté par des gays, des lesbiennes et des travestis, et où l'on danse. Or, à l'époque, à New York, il faut le savoir, on peut être arrêté si l'on porte moins de 3 articles vestimentaires correspondant à son sexe biologique, donc interdiction de se travestir. Et depuis 1926, et la prohibition, une loi new-yorkaise dite « loi cabaret » interdit de danser dans les bars, sauf pour ces derniers à décrocher une licence quasi impossible à obtenir en réalité. Loi qui ne sera abrogée qu'en 2017 et opportunément utilisée jusqu'aux années 50 pour fermer les bars de jazz de Harlem afin que blanc et noir ne se mélangent pas, mais aussi donc dans les années 70 pour fermer les établissements fréquentés par des homos. Cela dit, rares sont ceux qui bravent alors l'interdit dans les années 70 car en ce temps-là, beaucoup de bars gays sont gérés par la mafia, laquelle, pour éviter de se faire épingler et donc de voir fondre son chiffre d'affaires, veille à ce que l'on n'y danse pas. Mais le Stonewall Inn, lui, n'en a cure. Et quand la police débarque et bastonne les clients, elle fait face à une solide résistance, l'altercation dégénérant en bataille rangée à l'extérieur, puis en manif avec des centaines de personnes au cri de « gay power ». C'est donc bien ici le fait de s'habiller et de danser comme on le souhaite, tel qu'on le ressent, qui est pourfendu, qui est poursuivi. Par ailleurs, si la ségrégation raciale a officiellement pris fin depuis quelques années aux États-Unis, dans les faits, la société américaine n'en a pas fini avec le racisme et les Afro-Américains, de même que les Latinos, se sentent toujours perçus comme des citoyens de seconde zone. Mais au début des années 70, dans la foulée tant du Summer of Love de 67 que des manifestations contre la guerre du Vietnam, pour le droit des gays et en faveur de la libération des femmes, on sent poindre sur tous les fronts une volonté de révolte, quelle que soit sa forme. En tout cas, on ne se laisse plus faire et on ne va plus se laisser faire. Et puis, je le disais en commençant, il y a la crise économique qui, sans le vouloir, va aider à ce que ce phénomène du clubbing, où s'épanouira le disco, puisse démarrer. Entre la fin des 60s et le début des années 70, les États-Unis connaissent une récession économique, ce qui aura, pour ce qui nous occupe, plusieurs conséquences. Ainsi, on trouve désormais à New York un nombre élevé d'entrepôts vides qui sont loués à bas prix par des artistes qui installent leurs ateliers et qui, par ailleurs, sont également mis à profit par ceux qui veulent embraser la nuit, comme un certain David Mancuso. Si le disco avait un ange, ce serait la silhouette en haillons de David Mancuso. S'il avait un lieu de naissance, ce serait son club, le Loft. Ce club a été le plus influent de toute l'histoire. C'est là qu'on a envisagé pour la première fois la musique sur laquelle vous dansez aujourd'hui, ainsi que les lieux où vous vous rendez pour ce faire, ont écrit les auteurs d'une des bibles dédiées au clubbing, Last Night a DJ Saved My Life. Au cours de la seconde moitié des années 60, David Mancuso a déjà organisé dans son loft, situé sur Broadway au 647, à la lisière de Greenwich Village et East Village, une douzaine de soirées, histoire de renflouer un peu ses caisses et de payer son loyer. Mais c'est en 1970, le 14 février, alors qu'il a 25 ans, que tout va véritablement commencer dans son appartement entrepôt de Manhattan, avec sa première soirée intitulée « Love Saved the Day ». « Je vivais dans un véritable loft commercial », racontera-t-il. « Pour la première soirée, j'avais envoyé 36 invitations, mais ça n'a pas pris tout de suite. Il a fallu environ 6 mois pour que ça décolle. Après quoi, mon loft ouvrira chaque samedi soir, de minuit jusqu'au matin, rassemblant de 100 à 300 personnes. Une fois à l'intérieur, tout était inclus dans le prix d'entrée. Pour 2,50 $, vous aviez le vestiaire, la nourriture et la musique. » Alors, question nourriture ou boisson, des plats bio, du pain et des jus de fruits fraîchement pressés sont donc disponibles gratuitement, enfin une fois qu'on a payé les 2,50 $, et certaines théières peuvent même contenir un breuvage au goût quelque peu acide. Il ne fallait pas être membre, poursuit Mancuso, ce n'était pas un club, je ne voulais pas rentrer dans cette catégorie, je voulais que ça reste aussi près d'une fête que possible, que ce soit une atmosphère très intime. N'oubliez pas que le loft était l'endroit où je vivais, où je rêvais. Pour ce qui est du son, si David Mancuso dispose au début d'une bonne chaîne hi-fi, un ami va bientôt et très vite doter son loft d'une excellente sono qui sera considérée comme la meilleure que connaît à l'époque Manhattan. À noter que s'il dispose de 2 platines, Mancuso n'enchaîne pas les disques, mais les passe en entier pour que l'on savoure véritablement la musique qu'il choisit dans des univers très variés, de la pop, certains morceaux rock, et surtout ce qu'il appellera du rhythm and blues dansant.
And I was a very social person, always knew a lot of people, was involved in the civil rights movement, the Vietnam War, the psychedelic movement. The spiritual sense and the gay liberation thing, anything that had to do with a cause. I was very active in all that stuff. I always was into sound and was more into the psychedelic sound and jazz, R&B and all that stuff. And I started making tapes where what I would do is I'd take a song and then as soon as the song ended, I would put some kind of sound effect. Then the next record would come. I would do it like that. So it was always a continuous flow, some kind of sound information. And I would bring my friends over. And we would have only big parties this time because I had this big space. And, you know, be 100 people. And I started to have them more and more and more frequently.
Se rendre au loft, c'est aller à une fête complètement mixte, racialement et sexuellement. L'idée centrale, c'était le progrès social, rappelle Mancuso, et ce n'est pas le genre de choses qu'on trouvait à l'époque dans un nightclub habituel. L'un de ses proches ajoutant, il y avait environ 60% de noirs et 70% de gays qui, au loft, se sentaient complètement libres. Il y avait un mélange d'orientation sexuelle, de race, de groupe économique, un vrai mix où le dénominateur commun était la musique. Et justement, pour en revenir à la musique, danser au loft, écrivit un journaliste du Village Voice, c'était comme surfer sur des vagues de musique. On se laissait porter par une chanson, puis par une autre. On montait sans cesse jusqu'à atteindre une magnifique crête qui finissait par se briser, ce qui pouvait parfois susciter des cris d'approbation du public. Puis c'était de nouveau le calme et on repartait lentement, tranquillement, vers un autre sommet.
Radio Caroline. Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Le loft de David Mancuso sera fréquenté par de futurs DJ cultes, Larry Levan, Frankie Knuckles, David Morales ou François Kevorkian, mais aussi par un jeune gars qui va bientôt contribuer lui-même à l'essor de cette nouvelle culture au départ underground, le clubbing, ouvert à tous, sans préjugés de genre, d'orientation sexuelle ou de race. Il s'appelle Nicky Ciano et il raconte « Quand je suis allé chez David Mancuso dans son loft pour la première fois, j'ai été submergé par le son. Mon Dieu, je n'avais jamais entendu une musique sonner de cette façon. Et puis, la configuration du lieu était particulière. C'était comme être dans le salon de quelqu'un, mais un beau salon avec de gros coussins, des lampes et de vieilles chaises. Ma deuxième nuit au loft a été un moment charnière de ma vie. Je dansais et toutes les lumières étaient éteintes, à part une lampe sur la piste entre deux chaises. Tout à coup, les cuivres ont débarqué dans le morceau qui passait et la lumière s'est éteinte. Tout le monde est devenu fou. Je me suis retourné. J'ai réalisé que David Mancuso contrôlait tout dans la pièce. Le son, la lumière, la climatisation. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux contrôler l'atmosphère d'un espace. Je veux créer l'atmosphère. Et c'est ainsi qu'en 1973, Nicky Ciano et son frère acquièrent un espace à Soho, au cœur de Manhattan toujours, pour seulement 15 000 $, afin d'y ouvrir un club nommé The Gallery. C'était la première fois que les gens ordinaires faisaient de telles choses, se rappellera-t-il. Dans les années 60, ouvrir un club, c'était accessible qu'à la classe élevée, aux riches, à ceux qui habitaient dans l'Upper East Side. Et d'ajouter
within the empty loft space, within this blank canvas, we created an environment specifically geared towards dancing and blowing your mind. And the gallery is considered by many the first disco.
Au gallery aussi, les noirs, les homos et les femmes se retrouvent en sécurité, en toute insouciance pour vivre une expérience musicale nouvelle. Entre-temps, toujours dans Soho, la gay activist Alliance, elle, a commencé à organiser des soirées particulièrement torrides dans une caserne de pompiers abandonnée où 1500 personnes se pressent régulièrement sur la piste de danse. Au fait, une autre conséquence pour le moins inattendue et sans doute anecdotique de la crise économique sur les nuits new-yorkaises survient en 1973. Suite à une terrible sécheresse, l'agriculture américaine, déjà fragile, souffre d'une pénurie de soja dont les bovins sont grands consommateurs. D'ailleurs, à ce moment-là, les États-Unis n'exporteront plus de soja vers l'Europe. Le bœuf devient donc subitement inaccessible, ce qui se répercute sur les prix et notamment ceux des menus des restaurants qui voient dès lors leur table désertée. En conséquence de quoi, pour équilibrer un tant soit peu leur compte, ces établissements sont contraints de louer leurs salles la nuit pour des fêtes qui vont s'y organiser. Ce qui veut dire que souvent, les employés noirs et latinos de ces restos se retrouvent à ces fêtes, organisées souvent par des blancs, différents groupes sociaux dansant désormais ensemble en dessous de la 52e rue du jamais vu, se rappelle un témoin. Bref, peu à peu, les membres de communautés jusque-là stigmatisées trouvent donc des espaces où l'on est libre de danser et d'être exactement tel qu'on le souhaite. Et ces lieux vont se multiplier, de nouveaux clubs surfant sur cet engouement. Un mouvement qui gagnera évidemment les autres grandes villes américaines, attirant là encore des foules de toutes origines. Le décor est donc planté, l'écrin défini. Quant à la musique, elle va bientôt évoluer pour rendre plus irrésistible encore l'expérience de la danse. Le rythme va s'intensifier, être mis en avant, et notamment grâce à un batteur qui, à Philadelphie, fait partie d'un groupe de musiciens très prisé que l'on retrouve sur les meilleurs enregistrements des différents labels de la ville, avec pour terrain de jeu principal le Sigma Sound Studio. Deux épisodes de Radio Caroline avaient d'ailleurs été consacrés à ce fameux Philly Sound, le son de Philadelphie. Ce batteur s'appelle Earl Young et c'est lui qui va définir le rythme disco appelé Four on the Floor, c'est-à-dire avec la grosse caisse à chaque temps. Un rythme qui, cela dit, avait déjà été utilisé dans certains domaines du jazz jusqu'aux années 40 avant d'être abandonné notamment par le bebop. Un rythme par ailleurs bien différent de celui qui est, à la fin des 60s et au début des années 70, popularisé par la Motown. Mais ce Four on the Floor, Earl Young va non seulement le reprendre, mais l'enrichir avec l'utilisation de la caisse claire en contrepoint et surtout l'emploi du Charleston, donc des cymbales, tout au long du morceau. Petite démo par le maître lui-même, Earl Young.
This was the Motown. This was the Motown sound. Motown was using the heartbeat that was like this. I said, I'm going to develop a sound of our own. I said, I'm going to put four on the floor. So what I did, I put four on the floor like this. Then I put a 2-4 on a snare. Now that's basic disco. Now what determines what the song is going to feel like is your hi-hat. So I put eighth notes on the hi-hat. Now you got four on the floor here. Now that's basic disco.
Un rythme que Earl Young expérimente en 1973 pour un pur morceau de Philly Sound, The Love I Lost par Harold Melvin and the Blue Notes. Ce Four on the Floor ne va pas tarder à traverser l'Atlantique, car très vite, les Européens vont se mettre au disco, poussant encore plus loin le curseur de ce beat, comme me l'avait confirmé le producteur et mixeur américain culte Tom Moulton, que j'avais rencontré à New York pour l'un de mes documentaires Disco Europe Express.
À chaque mesure, quatre coups de grosse caisse. L'eurodisco est basé sur le 4 quarts. C'est le point de départ. Tout le reste s'ajoute à ça. Le kick à tous les temps, ça simplifie tout. Ça donne un rythme sur lequel on peut danser.
Tom Moulton se rappelant par ailleurs que le premier tube disco européen, Love to Love You Baby, de Donna Summer, produit à Munich par Giorgio Moroder, doit aussi l'une de ses inspirations à une autre source.
For the love of money, the OJs.
Et Love to Love You Baby, c'est quasiment le même riff. Mais ils ont essayé de faire un disque sensuel, sexuel, et ça a marché.
Sauf que dans un premier temps, Love to Love You Baby, qui a trouvé preneur aux États-Unis auprès de Casablanca Records, peine à décoller. Jusqu'à ce que, et là c'est Pete Bellotti, complice britannique de Giorgio Moroder, et lui aussi installé à Munich à l'époque, qui raconte.
Il faisait une fête chez lui à Los Angeles, et il nous appelle un vendredi soir, et il dit, on organise une orgie incroyable ici. Tout le monde baise sur ce disque, mais comme c'est un single, on doit le remettre en boucle. Ce que je veux, c'est qu'il dure toute une face. Et il a ajouté, faites-le le plus vite possible. Alors on l'a rallongé et on en a fait un titre de 16 minutes.
Et c'est cette version, longue, qui va triompher dans le monde, comme le confirme Neil Bogart, big boss du label de Los Angeles Casablanca Records, et s'erronne dans des archives de l'époque du milieu des années 70.
Et bien sûr, Donna Summer est devenue un phénomène international. Elle a propulsé le disco à des hauteurs que personne n'avait imaginé. Elle a ouvert la voie à beaucoup d'aspects du disco d'aujourd'hui.
Le français Céron, ex-batteur du groupe Congas, embrayera lui très rapidement et avec la même recette en ourdissant Love in C minor. Céron, qui récidivera en 1977 après un virage électronique avec Supernature, coécrit, je le précise parce qu'on l'oublie souvent, avec Alain Wisniak et des paroles de Lena Lovitch. Supernature, l'un des titres phares de la grande soirée d'ouverture des JO de Paris en 2024, cela ne vous aura pas échappé. Justement, avec le synthétiseur, l'Europe injecte dans le disco une texture totalement absente de l'autre côté de l'Atlantique. Mais à nouveau, juste avant Céron, c'est d'Allemagne que tout est parti. Et tout d'abord avec un morceau qui n'a rien de disco, mais qui cartonnera dans les clubs ici et là-bas, aux États-Unis, comme me l'a confirmé à New York le DJ François Kevorkian.
Un des disques les plus forts que je passais dans les clubs noirs, c'était Kraftwerk, Trans-Europe Express. Mais alors là, c'était mortel. Kraftwerk, c'est vraiment, c'est un autre monde, c'est futuriste.
Mais le titre de disco électronique européen le plus iconique sera bien sûr en 1977 I Feel Love de Donna Summer. On retrouve à Munich le binôme de Giorgio Moroder, Pete Bellotti, et à New York, François Kevorkian.
Mon concept, c'était de commencer avec un titre 50s, un peu dansant, et de passer à un titre à la Shirelles, puis un titre Motown, un titre funk, un titre disco, et ensuite, il nous fallait la chanson du futur. C'est ce qui est devenu I Feel Love. Donc au moment d'enregistrer l'album, il nous fallait un instrument futuriste. Donc on a loué un Moog 3P qui se composait de trois grands boîtiers.
Je me rappelle mais très très bien de la première fois que j'ai entendu I Feel Love, mais j'étais bouleversé, c'était un truc comme ça, mais personne n'avait jamais entendu.
Voilà pour une version live. Et voici pour la version telle qu'enregistrée dans le Musicland Studio munichois de Giorgio Moroder avec Pete Bellotti, mais aussi un ingénieur du son et programmeur nommé Robbie Vedel, qui va tirer de ces machines des sons et des fonctions que personne ne connaissait et que, paraît-il, Robert Moog lui-même, inventeur de ce synthétiseur, ignorait. Mais revenons aux États-Unis. Au milieu des 70s, comme l'explique Daphne Brooks, professeur d'études afro-américaines à l'université de Yale, le club est devenu une source d'intimité publique, de liberté sexuelle, et le disco à la fois un son et une image qui permet à ceux qui ne sont pas reconnus dans la culture dominante de se retrouver au cœur d'une tendance émergente et d'en tirer du plaisir. L'une des autres particularités du disco se situera au niveau de ses incarnations, car les producteurs de cette musique vont mettre en avant et rendre stars des femmes noires qui, en solo, dans la musique, n'ont pas été si nombreuses que cela jusque-là, outre bien sûr Nina Simone, Billie Holiday, Aretha Franklin ou Eartha Kitt. Dans les 70s, il y aura donc Donna Summer, mais aussi Gloria Gaynor, Linda Clifford, Patti LaBelle, Candy Staton, Thelma Houston, Anita Ward, Amy Stewart ou encore Grace Jones, qui a commencé par le disco. Beaucoup de ces chanteuses n'étant plus, il faut aussi le pointer, des jeunettes lancées sur le marché pour leur beauté juvénile. Non, ce sont des femmes qui ont vécu, bien souvent, et chantent des textes contenant parfois des messages explicites de fierté et de célébration de la différence, de l'empowerment, comme on dirait aujourd'hui. « I Will Survive », évidemment, de Gloria Gaynor, qui a 35 ans quand même déjà à l'époque, mais aussi, par exemple, « Young Heart Run Free », que David Crawford écrit en 1976 pour la chanteuse Candy Staton, 33 ans, après qu'elle lui a raconté la relation toxique, abusive et cruelle que lui fait endurer l'homme avec qui elle vit. « J'ai enregistré cette chanson en une prise de voix », racontait-elle encore récemment au journal britannique The Guardian, elle a 84 ans aujourd'hui, « puis j'ai écouté l'enregistrement et tout ce que je ressentais était là, l'intensité, la blessure, la douleur. Cette chanson racontait ma vie en 3 minutes. » Une balade country dans un costume disco vantant les vertus de l'indépendance romantique écrira quant à lui le Billboard. Alors d'accord, la célébrité de cette chanteuse se jouera parfois sur peu de tubes, mais des morceaux qui, et c'est loin d'être le cas de tous les hits disco ou de tous les hits en général, sont devenus des classiques, de véritables hymnes qui continuent 50 ans plus tard à résonner sur les pistes de danse et même parfois dans les manifestations. À la fin des 70s, le rythme disco va même finir par faire céder ou emballer des stars du rock comme les Rolling Stones avec Miss You, Queen et son Another One Bites the Dust, Kiss et I Was Made for Loving You, sorti sur Casablanca Records, le label de Donna Summer, ou encore Rod Stewart avec Do You Think I'm Sexy. Mais trop, c'est trop. Et cette musique qui, pendant plusieurs années, innovante et créative, avait prôné l'hédonisme et la tolérance, deviendra intolérable à ceux qui ne l'avaient jamais goûté, comme à ceux qui voyaient l'emprise sur la musique des noirs et des gays. Un genre insoutenable aussi pour un certain Steve Dahl, le DJ blanc d'une radio rock qui avait perdu son emploi la veille de Noël 1978 lorsque sa station était passée au format full disco et qui décidera d'organiser le 12 juillet 1979 une disco Demolition Night dans un stade de baseball de Chicago en mal de médiatisation. incités par cet animateur à apporter leur vinyle de disco pour les détruire, des dizaines de milliers d'auditeurs rempliront le Comiskey Park ou, dans une ambiance surréaliste, exploseront sur le terrain des montagnes de disques. À ce propos, je voulais vous faire écouter le témoignage de Leroy Gomez, chanteur américain du groupe Santa Esmeralda, qui avait fait une reprise flamenco disco de Don't Let Me Be Misunderstood, mais aussi, bien sûr, Tom Moulton, producteur et mixeur culte.
Il y avait des radios qui ont pris ça pour dire, voilà, disco est mort. Et pourquoi ? Parce que, comme l'Amérique, malheureusement, c'est très raciste, je crois qu'ils ont vu trop de gens de couleur qui sont en train de faire le succès, et le country and western et tous ces trucs-là, c'était derrière. Mais à partir de ce moment-là, dans une période très courte, 2-3 mois, on ne pouvait plus parler de disco, et c'était vraiment devenu underground.
Quand on travaillait sur Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor, ce disque vendait 10 000 exemplaires par semaine à New York, sans aucun passage radio. Comment était-ce possible? Eh bien, parce que ça passait dans les clubs. Soudain, les radios étaient obligées de passer des disques qu'elles ne passaient pas en temps normal. Les radios ont décidé de reprendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce truc à Chicago.
Le disco, c'était real, le vrai violon. C'était le vrai cuivre. C'était le batteur qui jouait. C'était live. Alors quand les gens ils ont acheté le plastique, là, ils avaient quelque chose dedans quand même.
Mais la mort du disco, on le sait, n'en était pas vraiment une. Après quelques années, au fil des décennies, le genre renaîtra de différentes manières, mais aussi sous les platines de nouvelles générations de DJ, désireux de retourner sans a priori à l'original, ou encore des studios de Daft Punk. Mais c'est une autre histoire. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, eh bien, faites-le savoir. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
We're on the air. Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.